Cours de philosophie premier par le père Philippe à Saint-Joseph, le 11 février 1987.
Droite, hypothèse de gauche. Alors, si tu es fou, Je n'ai pas l'expérience d'une âme séparée, philosophiquement parlant. Si vous avez eu des visites pendant la nuit d'âmes séparées, vous pouvez écrire un livre intéressant. Ça a été écrit. Même Gabriel Marcel en a fait une préface d'une mère qui écrivait sous la dictée de son fils, qui était mort et l'âme séparée de son fils. Et Gabriel Marcel, bon philosophe, qui s'inquiétait beaucoup de ça, Gabriel Marcel avait un dodo, c'était le contact avec les âmes séparées. On a parlé une fois, ceci était merveilleux, Gabriel Marcel, comme candeur. Parce que le réel et l'imaginatif et l'imaginaire, c'était très difficile à voir les frontières. Gabriel Marcel était j'étais avec une voix, c'est un petit détail, mais c'est un petit détail d'ordre philosophique. J'étais avec quelqu'un qu'il connaissait bien, qu'il blaguait beaucoup, quelqu'un qui vit encore du reste. Et j'étais à Paris, je crois, sur le boulevard Saint-Germain. Il me semble bien me rappeler que c'était là. Grande avenue. On voit Gabriel Marcel arriver. Alors il me dit, je ne dis rien. Je dis, bon, très bien, je ne dis rien. Quand Gabriel Marcel est arrivé, il a eu cette audace invraisemblable. Il avait une grande cape. Alors il a enveloppé Gabriel Marcel de sa grande cape en disant chut. Et Gabriel Marcel est suivi. J'en ai passé. Et Gabriel Marcel est resté pendant un certain temps complètement. C'était très curieux. Il le connaissait bien, il savait très bien qu'il vivait un peu dans l'imaginaire. Alors il avait une espèce de. C'est drôle, les philosophes. J'aurais pas osé faire ça. Je pouvais pas faire ça avec Gabriel Marcel. Parce que s'il m'avait reconnu, ça aurait été désastreux. Mais lui pouvait le faire en tant que laïque. Continuons un peu cette topic. Je veux pas la faire trop longue parce que je sais que c'est très fatigant, les topics. Mais c'est intéressant parce que par la personne, on touche, et c'est ça qui m'intéresse, ce qu'il y a de plus traditionnel dans la philosophie et ce qu'il y a de plus moderne. C'est le sommet des craintes. C'est pour ça que c'est intéressant. Et je crois qu'au fond, la personne est quand même le lieu de la rencontre aujourd'hui entre les anciens et les modernes et les contemporains. C'est l'intérêt, vous voyez, la substance, l'ousia au plan métaphysique. Je sais qu'elle commence avec Platon. Avant Platon, c'est la phusis. Donc il y a le passage de la phusis à l'ousia, c'est très intéressant. Et l'ousia, c'est Platon et Aristote, et puis saint Thomas. Et puis après, vous voyez la dégradation de l'ousia, jusqu'à la philosophie contemporaine qui la rejette. Donc l'ousia est enterrée comme la métaphysique classique est enterrée. Grand enterrement de première classe de la métaphysique classique avec Heidegger, tambour et trompette. Mais c'est l'enterrement, c'est évident. Heidegger, la métaphysique classique est finie. Il faut la renouveler, penser l'être. Mais penser l'être, l'ousia n'est pas là. L'ousia pour Heidegger, c'est la présence. Tandis que la personne, elle n'est pas enterrée. La philosophie de l'acte, elle a eu un moment, c'est l'Himalaya, je crois. C'est Aristote. Mais la philosophie de l'acte, c'est très très peu. où certains thèmes philosophiques ont apparu, puis ont disparu. Alors, ce qui me semble, c'est ça qui m'intéresse, moi, personnellement, si je veux faire la rencontre des anciens et des modernes, ce serait une table ronde sur la personne. Je vois que chez les anciens, elle est apparue avec les stoïciens, nous l'avons vu. Mais avant, on n'en parle pas. Donc c'est quand même quelque chose de très intéressant à ce point de vue-là. C'est, elle a une saveur stoïcienne, la personne. Donc elle a une saveur liée à l'action. Parce que tout ce qui est stoïcien est lié à l'action et au volontaire. Le stoïcien, c'est le sommet du volontaire. Tous les volontaristes sont stoïciens avec les pères jésuites. C'est vrai, la grande éducation jésuite et stoïcienne. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est les grands éducateurs. Les grands éducateurs sont volontaristes. Parce qu'on sait très bien que si on n'a pas un peu de volonté, on reste une nouille toute sa vie. Et des macaronis. Alors, ça ne tient pas la route. C'est mec, il faut la volonté. C'est nécessaire. Et là, c'est très curieux, c'est très intéressant de voir que là, l'aspect personne est lié à la volonté. Alors, la personne a fait son entrée magistrale. Alors, c'est vrai, ça. Elle a fait son entrée magistrale dans la théologie. Et à ce point de vue-là, je crois, j'ose pas le dire d'une façon absolue, mais je crois que saint Thomas représente le théologien de la personne. Contrairement à ce qu'on dit. On ne le connaît pas, saint Thomas. C'est très rare les gens qui connaissent vraiment saint Thomas, qui ont tout lu. Parce que je crois qu'on ne peut pas. Pour Aristote, il faut tout lire. Pour saint Thomas, il faut tout lire. Pour Platon, il faut tout lire. Beaucoup de gens ont lu entièrement Platon. Peu ont lu entièrement Aristote. Très peu ont lu entièrement saint Thomas. On prend dans saint Thomas, mais on ne connaît pas. Saint Thomas, c'est le théologien de la personne. Ça, j'en suis sûr. Et c'est la grandeur de saint Thomas. Et c'est pour ça que saint Thomas demeure présent. Parce qu'il est le premier quand même, et je crois ça, on peut le dire, il est le premier qui a eu une vision métaphysique de la personne. Pourquoi le Saint-Père aime-t-il saint Thomas? C'est qu'il subodore ça. Parce qu'il est personnaliste, sa père. Ça, c'est sûr. Il comprend que la personne, c'est un des sommets de la métaphysique. Mais saint Thomas, c'est le théologien de la personne. Et c'est le premier qui comprend qu'il faut dépasser, il peut le faire en théologien, dépasser l'aspect éthique, l'aspect métaphysique. Et le dépasser dans une vision de la personne. Et le sommet du théologien, c'est bien la très sainte Trinité. Et la très sainte Trinité, comment vous la regardez? C'est les trois personnes dans la simplicité. La théologie est personnaliste, on ne peut pas nier. On va dire que la théologie, c'est la nature, mais non. La théologie est personnaliste. Trois personnes dans l'unité. Deux natures dans une personne. Il n'y a pas de plus personnaliste. L'imago Dei qui fait de nous des personnes responsables de nos actes. Toute la théologie est personnaliste. Mais attention, la grande théologie de saint Thomas est personnaliste en assumant la nature. Et je crois que ça, c'est la santé de saint Thomas. C'est d'avoir uni nature et personne. Il l'a fait avec Boès, je suis d'accord. Mais Boès le fait très maladroitement. Et saint Thomas le fait, je crois, si on le suit bien, avec une pénétration extrêmement grande. Il ne le dit pas, mais je crois que c'était le problème de toute sa théologie. le problème de l'arbre qui est le problème foncier de Saint-Thomas, c'est le problème de la personne. Tandis que le problème de Platon, c'est l'âme. Le problème d'Aristote, c'est d'unir l'esprit à la nature. C'était le problème d'Aristote, ça j'en suis sûr. Il n'est pas arrivé entièrement. L'esprit à la nature, unir la philosophie de la nature et la philosophie première. Il nous dit bien, la philosophie première, c'est pour connaître ce que c'est que le nous, donc l'esprit. Et enfin, c'est ça qui a été son problème. Et pour saint Thomas, son problème théologique, c'est d'unir la nature et la personne. Dépasser la nature pour atteindre la personne. C'est très beau, ça. Et toute la philosophie de l'art, c'est pour ça. On va essayer de le comprendre, il y a son terme. Mais ce qui m'en semble intéressant, c'est que saint Thomas introduit le problème de la personne, le mystère de la personne. Il l'introduit pleinement en se servant de la métaphysique. Après saint Thomas, comme toujours, après Aristote, il y a une chute terrible, Théophraste. C'est une chute comparativement à Aristote. Une chute dans un aspect logique, dans un aspect vitaliste. On a de la peine à se maintenir au niveau de la métaphysique. C'est très très difficile. Après saint Thomas, il y a une chute. C'est très grand. Les premiers disciples de saint Thomas ne sont pas du tout à la hauteur de saint Thomas. Et Suarez joue un rôle historiquement très important. Parce que l'intention de Suarez, c'est d'essayer de sauver saint Thomas. L'intention de Suarez est excellente. Sauver la métaphysique de saint Thomas face à la logique. L'être de raison et l'être réel, ça ne fait qu'un. Suarez a senti le péril. Il l'a senti parce qu'il était catholique. Occam a été condamné. Condamné par les papes d'Avignon. C'est une grande œuvre des papes d'Avignon. Avec comme théologien Durand de Saint-Pourçain. Quand vous passez à Saint-Pourçain, il faut toujours saluer Durand. Durand de Saint-Pourçain, dominicain, rejeté des dominicains et reçu à la curie. C'est vieux aussi cette histoire. Très amusant. Et Durand de Saint-Pourçain a été un des théologiens qui a condamné Occam. Et Occam a été condamné par l'Église. Alors on comprend très bien Suarez, qui est profondément serviteur de l'Église. Père de Marjorie, je connais un peu, l'année dernière, partant en Espagne, en disant, je vais en Espagne pour voir la cause de béatification de Suarez. J'espère que ça ne vous scandalise pas. Je ne dis pas du tout, je serais très content que Suarez soit béatifié. C'est deux choses différentes, ce n'est pas à cause de ça que sa métaphysique sera sanctifiée. C'est deux choses différentes. Distinguer bien les deux. Il n'est pas encore béatifié. Mais c'est possible, c'est possible. Je n'ai rien contre. C'était un très saint homme, Suarez. Ses intentions étaient excellentes. Il avait vu le péril. C'est déjà beaucoup. Il avait vu le péril au camion. Il avait vu qu'il y avait là un danger terrible d'enfouissement de la métaphysique sous l'emprise de la logique. Pas si mal. Il avait voulu sauver la pensée de saint Thomas. Alors, d'une façon peut-être un peu trop apologétique, il avait voulu sauver. Et alors, il a voulu la sauver par ses disputationes métaphysiques. Et les disputations, il faut lire un peu, évidemment, c'est en latin. collectionner ce métaphysique, il faut les lire un peu pour se rendre un tout petit peu compte de ce que c'est que la naissance de la scolastique.
Le concept de Dieu est contradictoire. Et il a raison.
prétends avoir le concept du Dieu, le concept au sens fort, hein, c'est-à-dire le fruit d'une appréhension, selon un mode quantitatif. Si j'ai un concept quantitatif de l'être infini, de Dieu, mais c'est contradictoire. Puisque quand je dis que Dieu est infini, je veux dire qu'il me dépasse complètement et je n'ai pas de concept de lui. Dieu est tout autre que ce que je peux saisir. Alors quand je dis concept infini, est-ce que j'ai un concept d'infini? Mais non, je n'ai pas le concept d'infini. C'est impossible. Le concept de l'être fini, bon, alors, ça n'a pas d'intérêt. Le concept d'être, il n'est ni fini ni infini. Il est. C'est le concept d'être. Mais le concept d'être est toujours relatif au jugement d'existence. C'est le jugement d'existence qui est intéressant. Je commence ma métaphysique avec le jugement d'existence, ma philosophie première, et pas avec le concept d'être. Le concept d'être est quelque chose de second, puisque c'est à partir de mes expériences que j'ai progressivement le concept d'être. Je ne peux pas commencer ma métaphysique avec le concept d'être. Le concept d'être, on demeure dans l'intentionnalité. Au point de départ, je n'en sors jamais. C'est tout le problème de Husserl. Oui, comme tout se tient de Suarez à Husserl, le jugement d'existence est mis en dehors. C'est pour ça que je crois qu'on ne peut redécouvrir une vraie philosophie première qu'à partir du jugement d'existence. Il n'y a pas moyen autrement. Et on le retrouve tout le temps, ça. Je dis ça à cause de Suarez, parce que Suarez est un moment très important. Alors, songez à ça, concept d'être fini et infini, jugement de l'être fini et de l'être infini. Bon, ici, Saint Thomas, ici, Suarez. Et à partir de là, vous avez une métaphysique du concept d'être, fini et infini. Et vous verrez Wolf qui divisera la métaphysique, en effet, concept d'être fini et infini. Ça a marqué très profondément la pensée, ça. Alors, il faut réfléchir là-dessus. Parce que le point de départ, c'est toujours très important. Alors, je prends cette disputatio 34. C'est ce qui m'intéressait la personne. Ça m'intéresse de voir comment Suarez va penser la personne à partir, si vraiment, cette recherche théologique sur la personne dans Saint Thomas est le sommet de toute sa théologie. Celui qui veut laïciser la théologie de Saint Thomas pour en redécouvrir la métaphysique, va-t-il comprendre, en regardant la personne, qu'on va trouver dans la personne, chez Saint Thomas, le sommet de la métaphysique? C'est pas commode avec le concept d'être. Mettez en face concept d'être et personne, puis essayez de réfléchir. Quand je suis en face du jugement d'existence, je peux me dire, oui, le jugement d'existence le plus parfait que je connais, immédiat, c'est le jugement d'existence à l'égard de l'homme existant. L'homme qui existe, c'est l'expérience la plus parfaite que j'ai, au point de vue philosophique. Et ma propre personne, faut pas la négliger au plan métaphysique. Parce que j'ai une connaissance de ma personne qui est très particulière. Heureusement, je suis original dans ma personne. Et personne ne peut connaître ma propre personne en dehors de moi. Et j'avoue que je ne la connais pas. Donc c'est encore mieux. Donc je suis en face de quelque chose qui me dépasse tout le temps. La personne humaine, ma propre personne humaine, transcende tous les concepts que j'ai. Et c'est pour ça que je reviens toujours au jugement d'existence. Vous pouvez pas vous connaître parfaitement. Essayez de vous connaître parfaitement. Alors, vous pouvez pas vous connaître parfaitement. C'est ça qui est très curieux. Et vous pouvez pas connaître la personne d'un autre parfaitement. Le chemin d'existence montre qu'il y a quelque chose de transcendant.
Intelligo et amus.
Socratem. Quand vous posez à Descartes, quel est le premier moment de la vie intellectuelle cogito? Alors, intelligo cogito. Et comme Occam est franciscain, il ajoute un mot Socratem. C'est normal pour un franciscain. Un mot Socratem. Il aime Socrate. J'aime Socrate. Moi, le premier moment de ma vie intellectuelle, je pense et j'aime Socrate. Comme Descartes n'est pas franciscain, il dit cogito. Mais la réduction de intelligo au cogito, et on laisse tomber le pauvre Socrate, on laisse tomber l'autre, parce que c'est très gênant. Occam, lui, rejoint l'autre par amour. C'est très beau, ça. Je trouve ça très étonnant, les deux en parallèle. Ça fait comprendre très bien. Intelligo, on est encore dans un ordre de l'intelligence. Le cogito, on est dans l'ordre de l'entendement. C'est plus l'intelligence, c'est l'entendement. L'entendement est cogite. Confusion chez Descartes entre la raison et l'intelligence. Alors on dira l'entendement. Alors, je continue. Une substance intellectuelle complète ne dépendant pas d'autres suppos. Ailleurs, il la définit encore comme un suppos intellectuel. Mais le mot suppos est un terme logique. C'est lié à la supposition. Et la supposition est un terme logique qui, chez Occam, prend une importance énorme. Qu'est-ce que c'est que la supposition ? C'est la capacité d'un sujet, au plan logique, de recevoir les autres attributs. C'est la fameuse chose que prenaient toujours les scolastiques qui l'ont repris du reste à Occam. Quand je dis par exemple Adam, supponit, erat, puis-je dire Adam sera. Ou est-ce que je dois dire Adam a été? Je ne peux pas dire Adam sera, puisqu'il a été. Donc non supponit, le futur. Supponit seulement, le point de vue du passé. Et le problème de la supposition, c'est de savoir, dans la mesure du point de vue logique, comment un sujet est capable de recevoir tel ou tel attribut. Ça, c'est la supposition. C'est un terme extrêmement important au point de vue logique. C'est un terme qui était très, très développé. Et je crois qu'il y a là une confusion entre le point de vue de la substance et le point de vue logique. Si vous avez des questions, posez-les directement. J'aime pas beaucoup qu'on se passe des petits papiers pendant le cours. Vous voyez ? Non, mais si on a des questions, qu'on ait le courage de lever la main. Qu'est-ce qu'il y a ?
Le mot suppos.
Mais levez la main et demandez-le.
Non, parce que c'est simplement de contraire de l'allemand.
Mais... parce que c'est important de saisir ce que représente la supposition. Qu'est-ce que c'est que supposition ? C'est supponit. Donc, ce qui est capable de recevoir l'attribution d'un autre. Ailleurs, il définit encore donc comme le suppos intellectuel ou une nature intellectuelle complète qui n'a pas pour suppos sustentatur un autre, ni n'est destiné à réaliser avec un autre, à titre de partie, une unité essentielle, unum per se. Alors vous trouvez le unum per se, le point de vue de la personne. Donc, une nature intellectuelle complète qui n'a pas pour support un autre, ni n'est destiné à réaliser avec un autre, à titre de partie, unité essentielle, un unum per se. Vous voyez que tout le point de vue de la personne se trouve autour de la supposition, se trouve autour de l'unité. Alors, il nous dit encore ceci. Il ne faut donc pas confondre personne et suppos. il ne faut pas les confondre. Le suppôt étant un genre dont la personne est une espèce. Ça, c'est merveilleux. Enfin, vous savez ça, vous comprenez tout. Le suppôt, c'est proprement une fonction logique. Qu'est-ce que c'est que la personne ? C'est une espèce du suppôt. C'est tel suppôt. Donc, vous définissez la personne d'une façon logique. Le suppôt étant un genre dont la personne est une espèce. Occam distingue deux acceptions du terme suppôt. Pour les logiciens, il est synonyme d'individu et de singulier et désigne soit ce qui est numériquement une réalité et non plusieurs. En ce sens, n'importe quel universel peut être dit individu, soit la réalité existence hors de l'âme, qui est une et non plusieurs, et n'est pas le site de quelque chose. En ce sens, toute substance est un individu, soit un signe propre à une chose, ou terme discret, autrement dit, un nom propre, Socrate ou Platon, ou un pronom démonstratif, ceci est un homme, ceci désignant Socrate, ou encore un pronom démonstratif pris avec un terme commun, cet homme. Voyez, le souci du logicien, et c'est ça qu'il faut comprendre, que qu'est-ce que c'est que la personne ? C'est le terme singulier. Donc, ultime dans l'ordre singulier. C'est pour ça que c'est celui qui supponite, donc qui supporte tous les autres attributs et qui a son unité. Mais pour les théologiens, suppôt et individu ne sont pas convertibles, car pour eux, le suppôt n'est que substance, alors que l'accident est individu. En ce sens, le suppôt est un être complet, incommunicable par identité, qui n'est apte à inhérer à rien et n'est soutenu par aucun sujet. Donc, on reste dans la pure logique. Qu'est-ce que c'est que la personne ? Ça se ramène au suppôt. Et c'est un suppôt particulier. Mais c'est simplement un ordre du suppôt. C'est-à-dire quelque chose qui possède une individualité absolue. Or, qu'est-ce que c'est que l'individualité pour Occam ? C'est tout simplement l'ensemble de tous les accidents. Un individu est un individu lorsque, de fait, il se caractérise, se sépare des autres, parce qu'il possède toute une série d'individus de qualités distinctes. Vous voyez ? L'individu, c'est pas du tout la substance, c'est un ensemble d'accidents. Et c'est vrai qu'au point de vue logique, le suppôt, c'est ce qui est capable de recevoir les déterminations. Supponite, il reçoit toutes les déterminations. Toutes les déterminations accidentelles. Et donc, l'individu, c'est celui qui est l'ensemble de tous ces accidents particuliers. Tous ces accidents particuliers caractérisent l'individu. Donc, il n'y a plus de structure de la personne. La personne, c'est un ensemble d'accidents. Et la personne distingue du suppôt, n'importe quel suppôt, n'importe quel individu, l'individu animal, l'individu homme. Il y aura une distinction, si vous voulez, entre les deux, puisqu'il y aura le point de vue de l'esprit et le point de vue de la responsabilité. Mais ça reste une espèce d'un genre. Et la personne est uniquement un ensemble d'accidents. Alors, vous avez appris Suarez. Je relis la définition de Suarez que nous avions lue hier et que nous avions compris en voyant que ce n'était pas commode du tout à saisir. Qu'est-ce que c'est que la personne ? Suarez veut faire le dépassement de saint Thomas et d'Ockham. Alors, dans la Disputatio 34, où il traite de la substance première, ou suppo, et de sa distinction avec la nature, Suarez compare la personne au suppo et à la substance première. La personne est identique, idem est, à la substance première, au suppo. Substance première des prédicaments, c'est-à-dire ce qui est capable de supporter tous les accidents. Donc, ce qui est le plus indéterminé